France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
L'une est une icône électro-punk canadienne féministe et queer, l'autre est une artiste plasticienne et cinéaste qui réalise des portraits d'artistes uniques. Peaches et Marie Lozier seront mes invités à partir de 13h. Mais d'abord, honneur à l'exercice délicat et précieux de la critique cinéma, avec au menu le grand bazar dystopique du nouveau Bong Joon-ho et un héros mutique largué au bord du désert de Gobi dans le film de Gwan-ho. Bonjour à toutes et à tous, vous connaissez le programme et pour débattre autour de la table, Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Aurignac, cinéaste et critique de cinéma.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. 6 ans après sa palme d'or pour Parasite, c'est donc un retour à la science-fiction pour Bong Joon-ho. Souvenez-vous, le cinéaste coréen s'y était frotté avec The Host, avec Snowpiercer et Okja. Ici, il adapte un roman d'Edward Ashton et tourne avec un casting presque exclusivement états-unien, Robert Pattinson en tête. Robert, qui est donc ici Mickey, un gars un peu paumé qui accepte de devenir un remplaçable, c'est-à-dire un cobaye humain envoyé en éclaireur sur une planète plus qu'hostile. À chaque fois qu'il meurt en mission, il est réimprimé jusqu'à ce que l'éternel recommencement se grippe. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Guillaume Aurignac.
C'est un film qui en contient 3. Le problème pour moi, c'est que le film le plus intéressant dure à peu près les 20 premières minutes du film et nous abandonne après les 2 heures restantes avec les 2 autres films qui ne m'intéressent pas du tout.
Charlotte Garçon.
Oui, il y a un côté salmigondi. Moi, je n'ai pas forcément boudé le plat, même si c'était un peu long, effectivement, et pas d'une grande nouveauté.
On va écouter la bande annonce de Mickey 17.
Hi Mickey, are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow, did you see that?
Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable?
Oui.
Et vous avez lu tout le formulaire?
Ain't that a kick in the head?
Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps.
Ouais, j'aurais dû tout lire. My head keeps spinning. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission.
Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose et l'humanité progresse.
Oh, attendez, il est vivant.
Ça va.
Mickey, tu m'as l'air mal barré.
Ouais, je sais.
Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir?
Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça.
Mickey 17 de Bong Joon-ho, Guillaume Aurignac, vous disiez 3 films, dont un seul qui vous intéressait. Alors, c'est quoi ce film-là?
Alors, le film qui m'intéresse, donc, il dure à peu près 20 minutes, c'est celui qui regarde le personnage de Mickey, joué par Robert Pattinson, comme un peu le roi des ratés, une sorte de personnage un peu masochiste aussi, et qui est une viande consommable par et pour le développement du capitalisme. Ce film-là, il me semble assez sinistre, en même temps dérisoire et drôle, mais il ne dure que 20 minutes, et il avait pour projet quelque chose qui je trouve très intéressant, qui était de regarder une star anglo-saxonne jouer un individu surnuméraire, un moins que rien, et en fait faire rencontrer du coup Hollywood avec son glamour, son argent, son énergie aussi débordante, avec l'imaginaire un peu kafkaïen, comme si Mickey 17 était enfin rentré dans le château. Et là, un château qui est réactualisé aujourd'hui, c'est-à-dire une expédition spatiale à la Elon Musk. Et ce projet-là est en fait très vite abandonné au bout de 20 minutes parce qu'à un moment, il faut suivre une autre narration et la narration étant que le personnage va se dédoubler. Voilà. Alors après, on arrive sur un autre film qui est beaucoup plus convenu et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'a déjà livré Bong Joon-ho dans son cinéma, notamment avec Parasite, Snowpiercer et aussi Okja. Et donc ça, c'est une satire politique à la fois qui regarde, qui va allégoriser les rapports sociaux sociaux, les classes sociales, dans une sorte de petite boîte. Alors là, c'est, donc, vu les événements contemporains, ça, la petite boîte, ça va être un vaisseau spatial qui lance une expédition de colonisation extraterrestre, guidée par une sorte d'entrepreneur en même temps politique et un mélange de Trump et de Elon Musk.
Et c'est Mark Ruffalo.
Et c'est Mark Ruffalo qui le joue. Et cette satire se dédouble d'une autre considération qui est sur une considération un peu, on va dire, végane, écologique, sur l'exploitation animale. Ça, on l'avait déjà vu dans Okja, on l'a déjà vu dans Snowpiercer, et je trouve qu'il rejoue ça, il n'apporte rien de nouveau, et d'autre part, il le fait moins bien. Et en plus, je trouve que sa satire est archi-datée aujourd'hui. Alors, le film a connu des développements un peu compliqués, je crois, de production et en termes de sortie, ce qui fait qu'il est un peu daté, et on le sent vraiment aujourd'hui.
À quoi on le sent, qu'il est daté ?
Eh ben, c'est-à-dire que le personnage joué par Mark Ruffalo, qui est donc censé être une sorte de caricature un peu grotesque d'un mélange de Musk et de Trump, vu les derniers événements, les derniers développements aux États-Unis aujourd'hui, cette caricature est vraiment en deçà de ce qui se passe et n'arrive pas à rattraper le train des développements politiques contemporains. Donc vraiment, je trouve le film très daté, archi ringard d'une certaine manière là-dessus. Et enfin, il y a quand même un troisième film qui aurait pu être aussi intéressant, c'est que effectivement le personnage de Mickey 17 va se dédoubler. Alors donc c'est différents personnages, mais sauf que on est censé avoir un personnage qui meurt et son double qui apparaît. Sauf que là, à un moment, le personnage, le premier Mickey 17 n'est pas mort et le Mickey 18 apparaît. Et donc, il y a une sorte de dédoublement, un clivage du personnage joué par Robert Pattinson, ce qui pourrait donner lieu à une sorte de comédie métaphysique, un peu sur la persistance de ce qu'est un individu, type « Mes doubles, ma femme et moi » de Harold Ramis. Mais on est très très loin de ça parce qu'il n'a aucune idée, Bong Joon-ho, avec ça. Et la seule idée qu'il a, c'est de proposer un plan à trois, c'est dire à quel point il réduit la voilure de son projet. Et du coup, à la fin, moi, j'ai vraiment l'impression, d'autant plus aussi, que Pattinson s'oblige à jouer, à accentuer son jeu pour montrer le clivage entre les deux Mickey. Et du coup, le jeu devient très grossier, et grotesque, grossier et pas très bon. Et du coup, j'ai un peu l'impression à la fin que ce mélange de manque d'imagination et de mauvais jeu fait que on a une sorte de téléfilm, vous savez, ces téléfilms qu'on voyait, qui étaient direct to vidéo, téléfilm américain, qu'on voyait, qui atterrissait sur les chaînes de télé françaises, sous le label Hollywood Movies. Bah, c'est un peu ça, quoi.
Charlotte Garçon.
Alors, moi, pour vous dire que je reviens de loin, mon rapport au blockbuster étant, disons, intermittent, comme ça, en pointillé, je pensais que ce film, en voyant son titre il y a quelques mois, tirait parti du fait que, je ne sais pas si vous le savez, la souris Disney, Mickey, est tombée dans le domaine public. Le 1er janvier 2024. Donc, on a le droit, dans sa version originale, de la démultiplier comme on veut et gratuitement. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, enfin, quelqu'un s'en saisit. Et c'est pas mal que ce soit Bong Joon-ho. Bon, alors, donc,
on n'en est pas là, du coup. C'est pas du tout ça.
Mais il en reste quelque chose, c'est la réplication du personnage. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette idée de réplication, qui effectivement fleurit dans le cinéma, hein, bon, et dans la littérature, le double, voilà, on connaît. C'est dès qu'il s'agit de faire une machine pour le refaire. C'est-à-dire qu'en fait, dès que ça devient une question de décor tangible, là, ça commence à être plus intéressant. Et Bong Joon-ho n'est pas mauvais. C'est pas un génie du point de vue de cette invention. Mais en tout cas, quand je vois l'imprimante 3D, qui ressemble en fait à une machine IRM un peu, qui rejette le nouveau corps, enfin qui c'est une espèce de naissance, voilà. Là, je me dis... Là, il y a un humour, en fait. Il y a un humour à se dire, il faut matérialiser une idée de science-fiction. Et c'est ça qui m'a intéressée dans le film, y compris dans le côté un peu à la manque de la star Robert Pattinson. C'est-à-dire qu'il est, effectivement, il est ni beau ni laid. Enfin, je pense qu'on l'enlaidit un peu. Quand il devient Mickey 18, il a juste une dent de travers et on voit que, voilà, c'est censé être tout à coup un diablotin, voilà, dans son regard. Bon, mais c'est toutes ces solutions un peu bricolées et effectivement pas très inventives dans le sens où elles sont pas spectaculaires, qui m'ont plutôt intéressée dans le film, je suis d'accord, politiquement est débordé par sa droite, enfin par son extrême droite. Je crois qu'on n'arrivera pas à rendre aussi bouffon, n'importe quelle caricature d'Elon Musk ou de Trump. Donc là-dessus, il a plutôt pas de chance, et surtout le monde n'a pas de chance que cette science-fiction soit débordée. Mais en tout cas, il me semble que reste quand même dans ce film, il est vrai, assez long parce qu'on est enfermé dans ce vaisseau. Quand même, la plupart du temps, on est très peu de temps sur cette planète givrée. Reste ce travail, voilà, de la mise en scène, qui est qu'on a beau avoir des idées, y compris des idées de scénario, y compris des recettes, il faut les mettre en œuvre et il faut en dur, quoi. Donc, par exemple, il y a un côté très digestif de cette imprimante 3D qui se trouve située dans l'espèce de salle des machines, à côté d'un trou qui est l'incinérateur, où on jette les cadavres. Donc, ce côté expendable, ça se dit en anglais, donc ce côté remplaçable, jetable, il a toutes sortes d'implications dans le décor, de même que, moi, il me semble que le jeu... Et que le choix de Robert Pattinson, mais son jeu aussi, ce soit justement l'idée d'enlever ce qu'il y a de star dans la star, et d'arriver. On pourrait croire que si on était chez Spielberg, en gros, il y aurait une psychologie. Donc le type, c'est sous forme de hard drive, de disque dur, on remet dans le nouveau corps qui lui ressemble. Donc c'est pas du clonage, c'est le même type avec la même psychologie. On voit bien ce qu'un Spielberg en ferait, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose de l'ordre du mélodrame, de souvenirs, de rapport à la mer. Là, il s'est un tout petit peu esquissé le rapport à la mer, et puis en fait, il s'en fout complètement, effectivement. Donc il y a une impression un petit peu de cynisme. Ouais. Qui flotte là-dessus, mais en même temps m'a intéressé ce côté du coup très ordinaire et très banal de ce héros, mais aussi de cette star.
Guillaume Rignac, sur l'aspect que vous évoquiez rapidement du rapport à la planète, aux ressources, aux animaux.
Oui, mais ça n'est pas. C'est pas très neuf chez Bong Joon-ho, et je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Je pourrais comparer à une série de quelqu'un qui s'appelle Armando Iannucci, et qui a fait la série VIP, par exemple. Et cette série s'appelle Avenue 5. C'est une série sur le tourisme spatial, et qui parle de ça aussi, qui est à peu près sur le même sujet, et que je trouve beaucoup plus réussi, beaucoup plus drôle et beaucoup plus inventif que le film de Bong Joon-ho. Charlotte parlait de la machine à imprimer le corps. Il a un gag avec cette machine. C'est un très bon gag, effectivement. C'est-à-dire, c'est comme les anciennes machines à imprimer. C'est-à-dire, on voit la feuille, enfin ici le corps, qui revient d'avant en arrière pour essayer de bien formater le corps.
Comme avec les petits points.
Oui.
Vous souvenez.
Donc c'est un gag, mais le problème, c'est qu'il y en a qu'un. Et il le répète en plus, parce qu'il a pas beaucoup d'idées. C'est vrai que ça va pas du tout vers le mélo, ça va pas du tout. Il y a pas du tout de psychologie. Mais pourquoi? Parce que Bong Joon-ho essaie d'être un cinéaste burlesque. C'est un cinéaste du burlesque, donc un pur cinéma du corps, de l'énergie, de l'action et du rapport avec la matière. Sauf que pour être un bon cinéma burlesque, il faut être extrêmement inventif. Et je trouve qu'il manque d'imaginaire, il manque d'invention là-dessus.
Mais sur un peu plus de 2 heures, alors qu'est-ce qui se passe? Si on se dit qu'il y a un seul sketch, un seul gag.
Oui, c'est un peu long, mais c'est vrai que cette organicité du décor qui n'est pas hyper, qui n'est pas proliférante, mais qui n'est quand même pas rien, pour moi, quand même, je la retrouve dans cette espèce de jeu de main chaude qu'il y a à bord de cette mission spatiale entre les sciences à but technique, technologique, et donc. Capitaliste, voilà, ce côté il faut du jetable pour améliorer le produit, hein, d'obsolescence programmée du personnage, et le jeu donc entre ces sciences-là utilisées par le capitalisme et on pourrait dire les sciences naturelles, c'est-à-dire l'éthologie, parce que quand même il y a un fil dans le film qui est que si on comprend quelque chose à ces aliens qui sont à l'évidence plutôt des animaux que des aliens. Et si on y est un peu attentif, si on se met sur leur longueur d'onde,
il faut pas déflorer, dévoiler.
Mais en tout cas, il s'agit effectivement plutôt de comprendre les animaux ou de comprendre ce que ces animaux-là, je dis animaux parce que ils ressemblent à des tardigrades, à des pangolins. parce qu'ils peuvent se mettre en boule comme ça et se... Bon, on voit bien, et évidemment, qui dit pangolin dit Covid. Et... Mais tout ça est justement digéré par le film. Par exemple, à un moment, il y a un virus mortel et le personnage est utilisé comme un corps, comme un rat de laboratoire pour pouvoir améliorer les différentes versions du vaccin. Et c'est comme ça qu'on trouve un vaccin grâce à lui. Sauf que ça dure une minute dans le film. Donc, le film lui-même est une machine à recycler et à rejeter. C'est sûr qu'il y a là quelque chose de l'ordre du rapport à ce que fait Hollywood en essayant de bouffer l'actualité, de la recracher et dans un affolement mécanique.
C'est un film à 150 millions d'euros, je crois.
Oui, donc, mais au bout du compte, on a vraiment le sentiment, en termes de facture, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'un film Z. Ouais, c'est terrible hein, pour le, je trouve.
Où la planète porte un nom bizarre, enfin Niflheim, ça fait village d'Alsace. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai pas cherché, mais il y a peut-être une raison cryptique.
Donc c'était Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Bong Joon-ho et Guan Hu. Guan Hu, c'est celui qui a réalisé le plus gros succès du cinéma chinois, 425 millions de dollars de recettes. C'était en 2020 avec un film de guerre à très gros budget, La Brigade des 800. Et le revoici avec un film d'auteur, auréolé du prix Un Certain Regard à Cannes. Black Dog nous emmène aux abords du désert de Gobi, dans une ville industrielle presque à l'abandon, où les hommes et les chiens errent et s'entre-dévorent, sauf Lang, qui sort de prison et qui va se trouver une raison de vivre en adoptant un lévrier noir. On commence par un avis rapide de l'un et de l'autre. Charlotte Garçon.
Oui, un film d'auteur alors qui coche un peu trop de cases à mon avis.
Guillaume Aurignac.
Oui, c'est un film qui est habile et séduisant, mais dont l'habileté masque à mon avis une petite entourloupe quand même.
On va écouter la bande-annonce de Black Dog.
Ah 老外十年复杂还不能规矩啊！十年了，你得给我放命了。就开始真剑招，包乱盾。我至死的名，就这些。你敢不敢娶我？
'Black Dog de Guan Hu, Charlotte Garçon, on a l'impression d'entendre un western.
Oui, ben il y a cette intention, elle est évidente dans le film, puisque à la suite d'un accident causé par ces fameux chiens qui prolifèrent dans la région, un homme revient en ville. C'est vraiment l'arrivée en ville du banni, du détenu qui va être coincé dans cette ville puisqu'il est en liberté conditionnelle. Il doit pointer pour pouvoir garder sa liberté. Et le traitement de l'espace et du désert de Gobi est assez saisissant. C'est-à-dire qu'on a beau savoir, enfin en l'occurrence mes connaissances géographiques et géologiques sont très très limitées, mais on est quand même soufflé par la façon dont le scope capture quelque chose de cet endroit et la minéralisation du coup de la ville qui y est. Alors on nous dit que c'est avant les JO de Pékin de 2008, donc il y a cette idée peut-être d'une préparation, la toute petite ville du désert est censée être sur son 31. On voit bien que même sur son 31, en fait, elle est complètement à la ramasse et décatie, dépeuplée. Donc il y a un effet ton sur ton du désert dans le désert qui est, je trouve, très bien rendu dans le travail du décor.
Guillaume Rignac, entourloupe.
Oui, en tourloupe, parce que, comme vous le disiez, on pense qu'avoir affaire à un film d'auteur, en fait, Guan Hu, il n'est pas connu en France, mais en Chine, c'est quasiment un cinéaste officiel. Enfin,
c'est une question que je voulais vous poser.
Voilà, son précédent film, c'est un budget de 80 millions de dollars, quand même, et c'est financé, évidemment, par le PCC. Enfin, c'est un film officiel sur la culture, l'histoire officielle de la Chine. C'est vraiment un cinéaste de la propagande, en fait. Et donc là, d'un seul coup, on se dit, ah, tiens, un film d'auteur, mais en fait, c'est là où je me dis qu'il y a une petite entourloupe, en fait. Alors, effectivement, il fait des déplacements. Alors, le déplacement, c'est que on arrive déjà à une sorte de croisement, effectivement, entre le western et, je dirais, le film d'errance typique, alors, le Wim Wenders, en fait, le Wim Wenders movie et le western, le tout matiné, quand même, d'un cinéma burlesque.
Aussi.
Donc
d'accord.
Sur le papier, on se dit passionnant,
il
très intéressant.
Un peu finlandais sur les bords.
Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Voilà. Donc on voit toutes les références qu'il va chercher. Et c'est ce qui lui permet de faire un film singulier dans la cinématographie chinoise par un déplacement. Le premier déplacement, c'est le déplacement géographique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit Charlotte, on se retrouve à un endroit qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma chinois, près du désert de Gobi, et qui n'est ni l'environnement urbain, ni l'environnement rural pauvre, qui est un entre-deux, qui est vraiment la désolation, donc la ville de Western. Il y a aussi un déplacement social, puisque la société que filme le réalisateur est vraiment montrée sous une forme spectrale, un peu défaite, oubliée de la société chinoise. Et donc il y a ici pas la société de surveillance qu'on imagine de la société chinoise, la société de surveillance ou alors l'anonymat dans les grandes villes urbaines. Il y a vraiment pas tout ça. Ça lui permet d'être très inventif là-dessus. Et enfin il y a un troisième déplacement qui permet les deux premiers déplacements, c'est celui de la fable sociale réaliste vers plutôt la fable métaphysique et un peu enchantée. J'ai un peu pensé à la littérature de Dino Buzzati aussi, mm-hmm. avec cette espèce de malédiction du personnage qui ne doit pas quitter la ville et quand il la quitte, il finit par s'y retrouver. Sans qu'on comprenne bien les coordonnées de cette histoire-là, en fait. Voilà. Donc tout ça est mené très habilement, c'est assez intéressant, et avec un vrai sens des décors. Il y a une variation discrète aussi, mais réelle, sur le corps burlesque. Le film vraiment joue le côté burlesque. Mais le problème, c'est qu'il démarre peut-être avec la scène la plus saisissante du film. Donc le renversement d'un camion de passagers par une meute de chiens errants. Et en fait, en démarrant comme ça, il va s'obliger à forcer un petit peu constamment l'insolite et l'étrange dans son film. Parce que cette séquence-là, ça aurait dû être l'apothéose, en fait. C'est vraiment l'apothéose qui montre une sorte de chaos final où d'un seul coup, les animaux s'emparent de la société humaine et amènent une sorte d'apocalypse. Sauf que comme c'est au début, du coup, il va constamment chercher, creuser une sorte d'insolite et le forcer. C'est-à-dire que on va avoir des dispositions, des situations et des non-dialogues, parce qu'en fait le personnage principal ne parle pas, qui sont complètement imposés, artificiels dans le film, pour créer une sorte de sensation d'étrangeté. Voilà. Mais du coup, je trouve que on n'est plus dans l'étrangeté, on est dans le pittoresque. Et le pittoresque, c'est quelque chose de très particulier, c'est vraiment organiser le regard du spectateur pour dire « Regardez comme j'ai des effets de signature, comme je suis un auteur intéressant, comme je filme bien les paysages, comme je filme bien les situations. » Et typiquement, le pittoresque, à un moment, c'est qu'il va rencontrer un cirque. Je trouve ça tout à fait absurde, à un moment dans ce film-là, comme d'un seul coup, il rencontre un cirque. C'est vraiment, le cirque, c'est vraiment, je trouve le motif pour les cinéastes qui n'ont plus grand-chose à dire et qui veulent faire du folklorique et du pittoresque. D'un seul coup, ils sortent le cirque. Voilà.
Sur l'artificialité, vous êtes d'accord, Charlotte Garçon ?
Oui, alors, il y a une sorte de chose un peu étrange. Moi, j'ai pas encore décidé de l'évaluer. Quoi. C'est-à-dire, souvent, les films restent comme ça, flottent, et on ne sait pas trop si on les aime ou on les aime pas. Mais en tout cas, quelque chose qui est créé par le fait qu'il y a deux échelles, comme ça, juxtaposées dans le film, c'est cette grande échelle du désert qui se prête à des allégories sur tout le pays, quand même très, post-apocalyptique quasiment, post-industriel, alors et c'est encore un pays ultra industriel, hein, mais comme si on voyait à la fois le passé et l'avenir. Donc, cette grande échelle, moi, je trouve qu'elle a son efficace, mais elle est si superpose ou entre en concurrence tout le temps avec elle, l'autre échelle qui serait celle du burlesque ou d'une vie de chien de Chaplin, quoi, c'est-à-dire la relation du personnage avec cet élu, ce chien qu'il a repéré parce qu'ils ont pissé au même coin de rue et que donc l'animal a dû repérer le bonhomme à l'odeur. Et donc voilà, il y a ces deux échelles de plans quasiment qui coexistent et qui sont pas vraiment reliées. En fait, le film voudrait nous faire croire qu'il y a un lien, mais il me semble que l'individu avec son animal individuel ne se relie pas à l'ensemble, quoi.
Guillaume Aurignac, vous remettez en cause du coup les critiques qui ont pu être portées sur ce film, qui disent que c'est un film qui est justement une critique du régime chinois, une critique du modèle chinois.
Ça, c'est vraiment des effets de masque, parce que je crois, enfin, il donne des signaux de ça, mais c'est vraiment, en fait, il creuse pas du tout. Le régime chinois est complètement absent. En fait, c'est vraiment...
Alors, il y a des haut-parleurs, un peu comme dans Le Dictateur de Chaplin, où on dit aux gens d'avancer la tête fière, etc., alors qu'on voit que le village est complètement décati.
Mais regardons les policiers qui sont là, ils sont tout à fait bonhommes. Enfin, c'est tout le monde est finalement sympathique. Les méchants ne se révèlent pas méchants. Il y a vraiment une sorte de sympathie globale, parce que peut-être qu'il est aussi... Il y a aussi ce projet burlesque qui fait que ça doit tout emporter. Et ceci dit, je trouve que la part le plus intéressante du film, c'est quand même la part burlesque du film, où là, je trouve que le cinéaste se montre assez habile et efficace.
Et donc, le chien dans tout ça
il est très beau et il joue très bien.
Il a pas aucune férocité. Enfin, c'est un trait, c'est une espèce de dessin. Parce qu'il
c'est
est
un
tellement
lévrier.
Maigre. Bon, ouais. Alors moi qui ai un peu peur des chiens, ça m'a rassurée. Mais est-ce que tout ça, c'est pas au fond un recyclage par le cinéma officiel, puisqu'on sait, mais de manière extérieure au film, qui est ce Guan Hu, de toute cette imagerie qui nous est, nous, arrivée, qui est peut-être moins arrivée côté chinois, qui est depuis exactement 2008, d'ailleurs, me semble-t-il, ou 2009, à l'ouest des rails de Wangbing, hein, l'énorme documentaire de 9 heures sur ces mines, dont on a l'impression qu'elles sont désaffectées, mais en fait non, mais qui montre un pays complètement pulvérulent, avec des ouvriers, pour le coup, remplaçables, comme chez Bong Joon-ho. Voilà, est-ce que finalement, l'horreur, c'est pas que c'est recyclable, y compris par le cinéma officiel, qui arrive à en faire quelque chose de croquignol?
Oui, de pittoresque, un peu pop, voilà. Mais effectivement, c'est un peu le projet du film qu'on peut détecter.
Donc on peut revoir les documentaires, des grands documentaires, notamment des documentaires aussi, pas seulement Wang Bing, mais qui existent, hein, sur qu'est-ce qui se passe quand tout à coup il y a un grand projet de barrage et qu'on délocalise tout le monde, on expulse, on rase, etc. Et il y a encore ce type de très grand projet en Chine et le cinéma documentaire dans les années 2000 en a bien rendu compte.
Et d'ailleurs, Jia Zhangke joue dedans,
voilà,
en fait.
C'est vrai.
Il joue dans le film.
Oui, Jia Zhangke et joue l'oncle Yao.
Oui. Récupération.
Est-ce que lui-même n'est pas recyclé, en fait?
C'est le bon parrain, mais c'est quand même un parrain au sens mafieux du terme.
Mais sur le vous sauvez même pas le scope, l'image, Guillaume Aurignac.
Non, mais si, c'est très habile, mais vous savez, ça me fait penser à ces cinéastes officiels de l'ère soviétique, qui étaient de très bons cinéastes, très bons manufacturiers, qui avaient vraiment un sens sublime du registre épique. Voilà, je trouve qu'on est un peu là. C'est là où je dis qu'il y a un peu en tourloupe, parce qu'on veut nous faire vendre ça comme un film d'auteur. Ça ne l'est pas, en fait.
Mais
il le mime. C'est un.
Vous pensez que c'est un mimeur?
Oui, je pense qu'il a une intention d'auteurisme, en fait. C'est pas seulement un problème politique de récupérer ça, c'est aussi un problème esthétique, en fait, de croire que le cinéma d'auteur, c'est un genre. Voilà. Et c'est vrai qu'on est au bord de ça. Mais moi, je persiste, comme pour Mickey 17, je pense qu'il faut aller les voir, ces films. Ils sont suffisamment intéressants pour être nourrissants. C'est pas rien du tout. Hein.
Ouais, c'est pas rien du tout. Guillaume Rignac, si, c'est rien du tout pour vous.
Non, mais vraiment, Black Dog, c'est un film intéressant. J'ai été un peu séduit, évidemment, au début. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un entourloupe sur le film.
Entourloupe. Bon, on va en rester là. Donc, c'était Black Dog de Guan Hu et puis Mickey 17 de Bong Joon-ho qui sortent tous les deux aujourd'hui. Guillaume Aurignac, Charlotte Garçon, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture nous apporter votre regard acerbe aujourd'hui de la part de Guillaume. Évidemment, toutes les infos sur ces films sont sur la page des Midi de Culture ou sur le site de France Culture. On se retrouve tout à l'heure.